à tous, vous écoutez Puy de Science, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Bienvenue dans ce 12e épisode de Puy de Science avec Ludovic Pinard, enseignant-chercheur en catalyse hétérogène avec un enseignement tourné vers la transition énergétique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, ENSICAN. Et Ludovic, vous êtes rattaché au laboratoire de catalyse et de spectrochimie. Vous allez nous parler des zéolithes. Étymologiquement, les zéolithes, ce sont des pierres qui bouent, du verbe bouillir. Et bien sûr, vous allez aussi nous dire quelles sont leurs applications dans de nombreux domaines. Et nous avons 10 minutes, pas plus. Bonjour Ludovic.
Bonjour Isabelle.
Alors Ludovic, que sont ces zéolithes ?
Alors les zéolithes, ce sont des merveilleux matériaux, notamment qui ont la propriété, donc, c'est-à-dire les zéolithes naturels sont des matériaux, lorsqu'on les met dans la main, effectivement, on va commencer à voir la vapeur d'eau. C'est pour ça qu'on définit ces pierres, zéo pour bouillir, lithos pour pierre. Alors ce sont des matériaux, des aluminosilicates, qui sont formés à la fois de traits tétraèdres, qui vont s'auto-arranger et former ainsi des matériaux qui vont avoir différentes tailles de pore. Et ces tailles de pore vont leur conférer une propriété bien particulière, qui est celle d'un tamis moléculaire.
Un tamis moléculaire. Alors qu'est-ce que c'est ça ?
Alors tamis moléculaire est une notion relativement récente. Donc on se situe à ce niveau-là, à l'échelle de la molécule. C'est-à-dire une ouverture de ces pores, de ces matériaux microporeux, eh ben, on va être une ouverture de 5 à 6 angstroms. C'est-à-dire 5, 10 puissance, moins 10 mètres. Donc c'est des tailles à l'échelle de la molécule. Si je prends l'exemple du benzène, qui est aux alentours de 6 angstroms, 6, 10 puissance, moins 10 mètres, eh ben, on va pouvoir plus ou moins tamiser ces molécules. Et donc cette propriété de tamis moléculaire, on va le rencontrer, on va l'utiliser dans de nombreuses applications. Et comme pour tout tamis moléculaire, ça peut laisser passer certaines molécules et pas d'autres, simplement en fonction de leur taille. Un des premiers procédés industriels, ça a été la séparation des paraffines, c'est-à-dire des alcanes avec des isoparaffines, c'est-à-dire des alcanes avec des groupements branchés. À partir de là, on peut aussi séparer des petites molécules. Par exemple, pour la purification de l'air, on va capter à l'intérieur de ces matériaux toutes les molécules plus grosses que le dihydrogène, et ainsi, on peut obtenir un hydrogène purifié. Donc, le côté tamis moléculaire est relativement important. Mais il ne faut pas le voir comme un tamis, comme un objet en deux dimensions. C'est un matériau qui est en trois dimensions. Et ça peut générer des canaux, toujours à l'échelle moléculaire, des supercages, toujours à l'échelle moléculaire, et donc donner des propriétés bien particulières. Aluminosilicate, ça veut dire contient de l'aluminium, qui va générer à l'intérieur de ce matériau cristallin un défaut de charge qui va être compensé par un cation. Et donc, ces matériaux sont d'excellents échangeurs de cations. Une des applications que l'on peut avoir dans notre quotidien, notamment pour remplacer les détergents, on utilise dans les lessives solides des zéolithes qui vont pouvoir capter les cations calcium. Donc ces matériaux ont une application séparation, une application en échange de cations, mais aussi une application en catalyse. Alors quand je dis catalyse, c'est catalyse hétérogène. Alors pourquoi cette propriété ? Eh bien, matériau dans lequel je suis confiné, donc cette notion de confinement, puisqu'on est à l'échelle de la molécule, va faire que mon aluminium va être compensé par un proton, et ce proton-là va avoir des propriétés acides relativement intéressante pour des applications lorsqu'on se recherche à couper des liaisons carbone-carbone.
Peut-être juste pour bien comprendre, donc on est à l'échelle du tout petit.
Oui.
Ces zéolithes, bah, si on regarde ça dans un très très gros microscope, puisqu'on a bien compris que c'était l'échelle du tout petit, à quoi ça ressemble ?
Alors c'est une excellente question, à quoi ça ressemble ? Alors ça ressemble à de la poudre à l'échelle de mon œil, simplement à l'échelle effectivement de l'homme, et ben c'est simplement de la poudre. Comme tout matériau en poudre, on peut les mettre en forme pour des différentes applications. À l'échelle du cristal, c'est-à-dire à quelques micromètres, là ça peut prendre différentes formes en fonction des conditions de synthèse, du mode de synthèse. Ça peut être des cubes, ça peut être des sphères, ça peut être des aiguilles, mais attention, lorsque c'est des aiguilles, c'est interdit une commercialisation industrielle. Donc on va essayer de synthétiser des matériaux sous forme de cubes, de carrés, de pastilles Vichy également. Effectivement, il y en a qui vont sur la forme de pastilles Vichy. Donc ça peut prendre toutes les formes, et le talent des chercheurs, souvent, c'est essayer de donner certaines formes bien spécifiques. Et après, lorsque je regarde cette fois-ci à l'échelle atomique, eh ben, ça peut prendre la forme de mes tamis. L'ouverture de mes pores va dépendre du mode de synthèse. On va classer les zéolithes en fonction de la taille de leurs pores, donc la taille des trous, petits, moyens et grands, et une nouvelle famille au cours de développement, extra-large pores. Alors là, c'est l'ouverture, mais également, il peut y avoir à l'intérieur de ce matériau cristallin des tubes, des cavités, qu'on va appeler des cages ou des supercages en fonction de la dimension. Donc ça peut prendre une multitude de formes, et cette multitude de formes va faire que, on va avoir des propriétés bien particulières.
On a vu que ça pouvait filtrer, que ça pouvait catalyser. Est-ce que ça peut faire d'autres choses encore ?
Ça peut faire d'autres choses. Je vais parler en termes d'application, en termes de domaine d'application. On peut avoir un domaine relativement important. Je peux prendre l'exemple pour récupérer les radioéléments. Dans Fukushima, on a notamment envoyé de nombreux sacs de zéolite, de poudre de zéolite, pour récupérer les éléments radioactifs. On peut également l'utiliser sur l'aspect, en médecine. On le retrouve dans l'aérospatiale. De nombreuses applications, notamment pour l'agriculture, la construction, puisque c'est un matériau, effectivement, en partie, qui est également naturel. C'est un point qu'on n'a pas abordé. C'est un matériau que l'on peut synthétiser, mais qui, à l'origine, est à l'état naturel. Et les efforts qui ont été actuellement faits sur la synthèse, c'est qu'actuellement, on est capable de synthétiser plus de 260 environ zéolites à l'état, synthétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'industriellement, on a à peu près plus d'une quinzaine de zéolithes qui sont synthétisés, qui ont des applications industrielles pour la séparation, pour leur capacité d'échange d'ions, également en termes de catalyse hétérogène. Voilà.
C'est assez impressionnant le nombre d'applications qu'on peut faire avec ce matériau. Est-ce qu'il y a d'autres applications à venir dans le futur ?
Alors, je l'espère, oui. Pour cette transition énergétique, on va essayer en catalyse hétérogène d'utiliser ce matériau-là pour notamment dans la pyrolyse de la biomasse. En application, je situais pour le traitement du cancer, pour la vectorisation du dioxygène. Je parlais effectivement du spatial, c'est pour la capacité d'absorption. Donc, c'est une famille de matériaux qui est arrivée à une certaine maturité industrielle, mais il y a toujours une recherche active dans ce domaine. Et notamment, on peut aussi, le customiser, rajouter d'autres éléments, des métaux, pour lui conférer des propriétés bien particulières. Et à ce moment-là, on va parler d'une catalyse non plus acide, mais une catalyse bifonctionnel. Et donc, l'éventail, le champ des possibles pour ces matériaux-là est relativement important, mais son confinement, sa taille de pore, fait aussi son inconvénient, puisque dans ces conditions, on peut avoir des problèmes de diffusion. Donc, un grand travail des chercheurs actuels consiste à s'essayer à façonner à l'échelle atomique ces matériaux pour pouvoir améliorer la diffusion des molécules à l'intérieur de ces cristaux, mais également à augmenter l'accessibilité des centres actifs, ou, si d'un point de vue médical, à améliorer leur pénétration, effectivement, leur diffusion dans un être vivant. Donc voilà. Donc toutes ces applications sont actuellement très vastes.
Oui, c'est très vaste.
Et un domaine relativement actif, et tout ça simplement en partant d'un aluminosilicate, simplement du sable, de la silice et de l'aluminium.
Merci beaucoup. Merci Ludovic. Vraiment, on a découvert ces zéolithes et tout leur possible. Pour ceux que cela intéresse, on mettra en dessous du podcast des liens peut-être pour aller voir plus loin ou pour pouvoir suivre vos recherches. On ajoutera tout ça en dessous du podcast. Merci beaucoup Ludovic.
Merci Isabelle.
Vous avez aimé ce podcast ? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie. Et retrouvez-nous sur notre site internet 20écoledechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt !